Bonsoir. 500 000 réfugiés vivent dans des conditions difficiles en République démocratique du Congo et plus de 800 000 réfugiés congolais sont installés dans les pays voisins et ailleurs. C'est ce que révèle le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés. Et au sujet des Congolais, cette agence de l'ONU ajoute que la plus grande majorité de ces réfugiés de la RDC désirent gagner leur pays. Quelle lecture faire de cette situation? C'est le débat de ce soir et pour en parler, nous accueillons Fafa Olivier Atidja, représentant régional adjoint du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en RDC. Fafa Olivier Atidja, bonsoir.
Bonsoir.
Mais également Omar Kavota. Omar Kavota, bonsoir. Omar Kavota devrait... Merci, le son n'est pas encore de très bonne qualité, mais on a bien reçu vos salutations. Vous êtes avocat et notable de la province du Nord Kivu. Et enfin, Willy Loma, président des organisations des droits de l'homme de Mwanda au Congo central. Willy Loma, bonsoir. Willy Loma devrait être avec nous dans ce débat. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Un demi-million de réfugiés vivent dans des conditions difficiles en RDC et plus de 800 000 réfugiés congolais sont installés dans les pays voisins et ailleurs. La plus grande majorité de ces réfugiés congolais désirent regagner le pays et c'est la révélation faite par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en marge de la Journée internationale des réfugiés célébrée aujourd'hui 20 juin. Suivez déjà cet extrait de l'entretien que la représentante régionale du HCR a accordé à Radio Okapi, Madame N est au micro de Jean-Pierre Elali.
Pour la plupart, ils vivent dans les zones à la frontière avec le pays d'où ils sont venus et ils vivent dans les situations qui sont vraiment difficiles, on peut dire. Heureusement, le nombre de réfugiés au Congo, il reste relativement stable pour le moment, donc autour de 1 demi-million de réfugiés. Mais à l'exception des réfugiés du Sud-Soudan, ils sont venus il y a quelques années et le nombre de réfugiés sud-soudanais, ils ont augmenté cette année.
Combien ils sont-ils?
Ils sont à peu près 100 000 réfugiés. Nous avons cette année plus de 800 000 réfugiés congolais qui demandent asile dans le pays. Les réfugiés, ils ont commencé à exprimer des désirs de rentrer chez eux avec le nouveau gouvernement et nous avons en train d'organiser une autre réunion tripartite pour les réfugiés qui se trouvent en Angola.
Madame N, représentante régionale du HCR en RDC, ça c'est ce que disent les officiels. Voyons à présent à quoi ressemble la vie des réfugiés au quotidien en RDC. À Goma par exemple, une journée de réflexion sur les conditions de vie a été organisée par le HCR, les autorités provinciales, les représentants des réfugiés, les partenaires œuvrant dans leur accompagnement y ont pris part. La vie des réfugiés au Nord Kivu, Marc Marofimbo.
En faisant sa présentation lors de cette rencontre, le représentant des réfugiés en province du Nord Kivu a insisté sur les raisons qui font qu'ils vivent aujourd'hui sur le sol congolais, l'insécurité. Mais si ces réfugiés urbains et demandeurs d'asile venus du Soudan, de l'Ouganda, du Rwanda et du Burundi profitent de la générosité des Congolais parce que la plupart vivent dans des familles d'accueil, les difficultés ne manquent pas. C'est ce que dit ici Didier Bavou Geyakandi, représentant des réfugiés au Nord Kivu.
Nous vivons dans une insécurité qui ne dit pas son nom. Car nous ne sommes pas épargnés par les phénomènes de kidnapping, d'arrestation arbitraire comme cela arrive aux Congolais, mais encore pire aux étrangers.
Mais le HCR reste optimiste, car malgré les multiples défis, la chef de la sous-délégation dit que le HCR va continuer à travailler avec le gouvernement congolais pour continuer à améliorer la vie des réfugiés se trouvant sur son sol. Marie-Hélène Varney.
Malgré les multiples défis auxquels nous faisons face avec le gouvernement congolais, nous restons optimistes sur la situation des réfugiés dans ce pays en particulier. Nous allons continuer à travailler avec les autorités et avec tous nos partenaires pour avancer, pour non seulement traiter des urgences, mais aussi avancer tous ensemble vers des solutions durables.
Pour rappel, cette journée des réfugiés est célébrée cette année sous le thème « Avançons avec le réfugié, faisons un pas avec le réfugié et soyons solidaires avec le réfugié ». Goma, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Fafa Olivier Atiza, représentant régional adjoint du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en RDC, le HCR nous dit que les réfugiés ressortissants des pays voisins de la RDC sont estimés à autour de 500 000 et que les Congolais à l'étranger sont eux à plus de 800 000. Mais dans le monde entier, combien de réfugiés y a-t-il en ce moment?
Oui, il y a quelques millions de réfugiés dans le monde entier. Et comme vous savez, les
on atteint les 5 millions, on en est moins ou on est un peu plus?
Oui, on est plus. On est plus. Oui. Et comme vous savez, les soubresauts d'un peu partout dans le monde entier font que des populations se déplacent régulièrement et traversent les frontières et les frontières. Et ce qui font d'eux des réfugiés. Et en réponse avec les gouvernements qui les accueillent, le HCR vient en appui et essaie d'organiser la réponse et l'assistance à ces personnes qui sont souvent dans des conditions très très difficiles. Et notre travail principalement, c'est de nous assurer de la protection internationale de ces personnes-là. Et cela est assorti aussi d'une forme d'assistance matérielle que nous leur donnons avec l'appui de généreux bailleurs de fonds des pays qui veulent bien soutenir la cause des réfugiés.
Et comme nous venons de l'entendre dans le sonore illustratif du début de l'émission, le HCR ajoute aussi que ces personnes vivent dans des sérieuses difficultés en République démocratique du Congo. Nos reporters l'ont signalé dans ce document. Mais pouvez-vous nous donner d'autres situations, outre que ce qui a été décrit dans notre reportage? Et surtout, qui est responsable de cette précarité dans laquelle vivent les réfugiés vivant en RDC?
Vous savez, lorsque les réfugiés arrivent, la première chose que nous faisons, nous obtenons d'abord un asile pour eux. Nous faisons en sorte que les conditions d'asile soient favorables. Pour le cas de la RDC, le gouvernement congolais et la population congolaise, c'est le lieu pour moi, au nom de ma représentante, au nom de tout le HCR, de remercier le gouvernement congolais, la population congolaise, pour avoir ouvert les frontières et aussi pour avoir accordé cet asile-là aux réfugiés qui arrivent. Maintenant, en termes de précarité, les réfugiés, quand ils viennent, on essaie de vaille que vaille, d'organiser une forme d'assistance en les hébergeant. Et aujourd'hui, les réfugiés, certains sont accueillis dans des camps. Il y en a plein qui, un pourcentage plutôt significatif, qui vivent au sein des familles, au sein des populations d'accueil. Donc, en termes de précarité, voilà, le HCR fournit ce qu'on appelle la protection internationale. Et le gouvernement congolais organise la protection physique et du personnel du HCR et du personnel et des réfugiés eux-mêmes. Donc c'est dans ces conditions que ces réfugiés vivent et certains sont dans des camps qui ont été octroyés dans des espaces aménagés, qui ont été octroyés par les autorités et d'autres sont accueillis directement au sein des familles d'accueil. Aujourd'hui, une grande majorité vit plutôt dans les familles d'accueil que dans le camp.
C'est plutôt positif si ces personnes sont accueillies et certains sont réceptionnés dans les familles d'accueil, mais on a ressorti le côté difficile des conditions de leur existence. Est-ce qu'on peut savoir sur une énumération assez importante pour comprendre cette difficulté?
Ouais, vous savez, quand ils...
Est-ce qu'ils mangent? Est-ce qu'ils peuvent se vêtir? Est-ce qu'ils peuvent prendre un bain? Est-ce qu'ils ont un petit quelque chose pour faire face à quelques urgences, par exemple?
Oui. Vu l'expérience du HCR avec ses plus de 60 ans d'expérience, on est habitué à accueillir ces populations-là en masse, en millions. Et donc, nous avons une très bonne équipe de réponse pour organiser l'accueil. Donc nous fournissons ce qu'on appelle une assistance multisectorielle qui va de l'alimentation avec l'appui d'autres partenaires, bien entendu, l'alimentation, la santé, l'eau, l'assainissement, l'éducation, l'agriculture et la protection. Donc nous fournissons tout ça, les abris également. Tout ça est organisé et fait. Maintenant, les difficultés que nous pouvons, auxquelles nous pouvons faire face la plupart du temps, c'est beaucoup plus la question de financement. Quand on n'en a pas assez, on essaie de faire avec ce qu'on a. On organise quand même les réfugiés avec les communautés locales. Oui, c'est vrai. Bon, on leur fournit des abris, comme je disais, de l'eau en faisant des puits, des forages à gauche et à droite. Nous avons des standards que nous essayons de respecter, une certaine quantité d'eau par exemple par personne par jour. Les espaces pour les abris, nous avons des mesures et des standards aussi là-dessus que nous respectons. Ce n'est pas le grand luxe, mais c'est des situations dans lesquelles qui sont largement acceptables. Pour autant que nous avons un peu d'argent, suffisamment de financement.
Ils ne sont pas en danger de mort non plus.
Non, en matière de sécurité, le gouvernement congolais, pour le cas d'espèce, s'occupe bien de la sécurité de tout le monde, comme ils le font pour les populations congolaises, là où la situation le permet.
Alors la RDC, c'est un gros territoire. Quels sont les sites à peu près où sont localisés les réfugiés, les étrangers vivant en RDC?
Ouais, puisque nous avons des réfugiés venant de Centrafrique, eux ils sont dans l'Ubangi et puis dans le Bas-Oélé. Ceux qui viennent du Soudan du Sud, ils sont dans le Haut-Oélé. Et nous avons des réfugiés rwandais qui sont dans le Nord Kivu. Nous avons des réfugiés burundais qui sont dans le Sud Kivu. Et puis, quelque part vers le Katanga, il y a certains Angolais et ainsi de suite. Donc, vous voyez, la RDC est un pays très grand. Donc, et les pays voisins, malheureusement, certains pays voisins ont encore des problèmes de stabilité, ce qui fait que la RDC est un pays qui accueille quand même un nombre élevé de
réfugiés. Alors, l'idéal aurait été que les réfugiés vivent en territoire étranger comme s'ils étaient chez eux. Ça aurait été l'idéal avec tout le confort. Mais si on devait atteindre cet idéal, que devait-il être fait à ces réfugiés-là? Qui devait leur donner quoi exactement? Est-ce la RDC? Est-ce plutôt la communauté internationale?
Oui, la question des réfugiés est une affaire de responsabilité partagée. C'est pour cela que la communauté internationale, à travers certains pays donateurs, accorde des financements, appuie le ICR et les ONG, les organisations non gouvernementales, à venir en assistance à ces réfugiés. Donc c'est vraiment partagé. Mais le plus gros, qu'on ne met pas sur la table, qu'on n'évalue pas, c'est beaucoup plus l'accueil du pays d'asile, notamment ici la RDC, avec les terres qui sont occupées, l'environnement, l'eau qu'on exploite. Donc tout ça, quand on le met sur la table, ça fait quand même un montant suffisamment élevé.
Fafa, Olivier Atidja, on revient à vous dans un instant. Omar Kavota, vous êtes avocat, notable de la province du Nord Kivu. Pourquoi les réfugiés de nos pays voisins vivent-ils dans ces difficultés telles que décrites par notre confrère de Goma? La RDC a-t-elle décidé de négliger ses voisins en difficulté ou bien?
Non, permettez que je commence par saluer le coordonnateur de cette émission, notamment M. Olivier et tous les auditeurs qui suivent cette émission à travers le monde. Mais s'il faut que je revienne à votre question, je pense que d'abord, il faut commencer par voir l'ampleur des statistiques qui sont avancées. Je pense que de loin, on risque de croire que les chiffres présentés ici par l'ACR sont exagérés. Pourtant, la réalité, c'est que même ces statistiques sont légèrement inférieures, étant donné qu'il y a beaucoup d'autres réfugiés qui échappent au recensement du ICR. Lorsque vous avez présenté, enfin, à l'entrée de l'émission, nous avons constaté qu'il y a plus de 800 000 réfugiés congolais à l'extérieur du pays. Et les chiffres tel qu'avancé par l'HCR, au Turquie État, 1149 672 000 réfugiés.
Omar Kavota,
500 000 réfugiés qui sont en RDC.
Permettez, Omar Kavota, est-ce que vous m'entendez? Oui, vous abordez là la situation des Congolais qui vivent à l'étranger, mais la question c'est, nous avons constaté que les réfugiés des pays voisins de la RDC, eux, vivaient quand même dans des conditions pas confortables. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Vous êtes un des notables de la province du Nord Kivu, vous avez une certaine responsabilité. Comment avez-vous découvert cette situation?
Non, moi je ne fais pas de différence par rapport à la situation des réfugiés. Lorsqu'il faut aborder leur situation dans la région des Grands Lacs, en se trouvant en RDC, on peut se rendre compte que même ceux qui sont ici chez nous vivent mieux que nos compatriotes qui sont en dehors de notre pays, notamment en Ouganda, au Rwanda, au Burundi. Et s'agissant de la situation de chez nous, il s'observe que, effectivement, les conditions sont déplorables, comme il a été démontré à travers la journée de réflexion sur la vie des réfugiés à RDC, ce qui a été observé donc aujourd'hui à Goma. Mais ce n'est pas que ceux qui sont ici comme réfugiés traversent des conditions aussi difficiles que ceux que les nôtres qui sont à l'étranger. En réalité, ils observent que les réfugiés dans cette région de Galate, qu'ils soient à RDC ou en dehors de la RDC, donc dans les pays qui nous entourent, les réfugiés traversent des conditions pratiquement difficiles.
Omar Kavota, le représentant des réfugiés que nous avons, que notre collègue a rencontré pour son reportage, est formel. Il dénonce une insécurité, des cas éventuels de kidnapping auxquels ils sont eux aussi exposés. Vous ne pensez pas qu'ils sont quand même dans une situation assez problématique?
Mais ça, c'est le contexte de notre pays. Ils ne sont pas exposés en tant que réfugiés. Il faut, en considérant par exemple la situation au Nord Kivu, où des citoyens sont kidnappés, où il y a l'insécurité. C'est l'insécurité qui frappe pratiquement tout le monde. Et même, s'agissant du cas particulier du Nord Kivu, il y a une autre forme de sécurité, qui est l'œuvre de ces réfugiés. Parce que, s'agissant de cette province, il y a des réfugiés qui étaient entrés avec armes. Ce sont les FDLR. Qui, parfois, se trouvent dans des camps. La journée, ils sont civils. La nuit, ils sont porteurs d'armes. Et ça, ce n'est pas une situation qu'il faut ignorer. Donc, ça donne la question sécuritaire en rapport avec les réfugiés. Cette situation dépend du milieu ou du pays même d'Asie. Le cas de la RDC, dans des provinces aussi fragiles comme celle du Nord Kivu, et peut-être même la province voisine au Nord Kivu, l'Ituri, on sent que l'insécurité est grandissante et l'insécurité menace aussi bien les réfugiés que l'ensemble de la population de citoyens qui s'y trouvent.
Permettez, Omar Kavota. Omar, vous évoquiez déjà, vous touchiez déjà la situation des Congolais réfugiés à l'étranger. Selon vos informations, quelle est la situation à ce jour? Pouvez-vous nous dire, par exemple, quelle est la situation à ce jour des Congolais vivant en Angola, à Brazzaville, dont les images de violence nous ont beaucoup affectés il y a quelques temps encore?
Oui, ce n'est plus à démontrer. Nous le suivons, même à distance. Et il y a certains États que nous avons l'avantage de visiter. Lorsque je peux parler de la région de Grand Lac ici, nos compatriotes qui vivent au Rwanda, ceux qui vivent au Burundi, ceux qui vivent en Ouganda, ils ne sont pas les mieux traités. Et de surcroît, en Angola, où parfois, nos compatriotes sont même la cible de forces de sécurité qui les traquent et qui se trouvent parfois inquiétés, pas du fait de l'insécurité, mais par le fait que les services, les forces de sécurité, le forcent à rentrer. Je pense que notre co-débatteur dans cette émission du FCR suit aussi le cri d'alarme de nos compatriotes sur tout ce qui concerne l'Angola. Mais leur milieu de retour, parce qu'il faut faire allusion ici aux jeunes dans lesquels ils se trouvaient avant de fuir, pour ceux qui se trouvent aujourd'hui à Uganda, au Rwanda, au Burundi et même à Tanzanie, la plupart ont fui les provinces du Kivu et même l'Ituri. Pour ceux qui sont en Angola, c'est notamment ceux qui ont fui les atrocités au passage, d'autres qui ont fui l'ex-province du Katanga et qui peuvent se retrouver aussi en Zambie. Mais aujourd'hui, la situation de leur milieu d'origine n'offre pas encore des conditions, effectivement, qui puissent les rassurer, même d'effectuer le retour, quand bien même ils observent que la plupart brillent de la volonté de rentrer au pays.
Merci. Merci Omar Kavota. Willy Loma, président des organisations de droits de l'homme de Mwanda au Congo central. Votre rôle, c'est de documenter, entre autres, la situation des droits de l'homme. Étiez-vous au courant de cette vie difficile des réfugiés en République démocratique du Congo?
D'abord, bonsoir Guy Maté, bonsoir mes co-débatteurs. Bonsoir également aux auditeurs de Radio Okapi.
Guy Maté vous a écouté, il est à la réalisation. Pour s'entretenir avec vous, c'est Dona Madimba.
Merci Dona Madimba. En fait, il faudrait dire un mot d'abord autour de la question de l'immigration, sur la terminologie d'abord. Qui sont appelés réfugiés? Sont appelés réfugiés toute personne qui se trouve hors de son pays, dont il a la nationalité, ou encore ou dans sa résidence habituelle. Alors,
on ne devrait pas ajouter Willy Loma,
oui.
Dans votre définition, on ne devrait pas ajouter en situation d'asile, parce que se retrouver à l'étranger, ça ne fait pas de quelqu'un réfugié.
Tout à fait. J'ai juste résumé un peu des mots.
D'accord.
Parce qu'on n'a pas assez de temps. Tout à fait. Donc, à ce jour, les migrants représentent environ 4% de la population mondiale, soit environ 219 millions de personnes, dont 16 millions de réfugiés. Et cette question des réfugiés par rapport à la situation de violation des droits de l'homme interpelle beaucoup plus les autorités, et je vais parler aussi des autorités congolaises. Mais moi, je vais prendre beaucoup plus le cas des refoulements des Congolais, et je vais les assimiler dans le même type de refoulements, parce que là où nous travaillons beaucoup en ce qui concerne les violations des droits humains qui sont perpétrées autour de cette question des refoulés. Alors, vous conviendrez avec moi que la plupart des cas de refoulement, cela est dû à quoi? Il faudrait d'abord qu'on arrive d'abord à déceler les éléments qui arrivent à créer des cas de refoulement. Ici, je vais parler des cas de disparité économique. Je reviens encore sur le cas d'inégalité salariale entre les pays. Il y a aussi le problème des crises politiques, des guerres et des catastrophes naturelles. On ne sait pas ignorer le chômage, ainsi que la différence du niveau de vie. Et cela pousse beaucoup plus de migrants qui sort du pays pour se retrouver dans d'autres pays, ici le cas d'Angola, où beaucoup de Congolais y vont et vivent dans des conditions irrégulières et sont expulsés tout en violation flagrante des droits de l'homme. Nous avons répertorié beaucoup de cas depuis 2006. À ce jour, il y a un grand nombre de violations des droits de l'homme. Et d'ailleurs, vous vous rappelez bien que l'autre pays a signé beaucoup de conventions avec les pays voisins. Et si j'ai ma mémoire est encore fraîche, il y a le 19 mai 2014, il y a eu un comité conjoint qui a été signé entre deux États, à savoir l'Angola et la République démocratique du Congo, en ce qui concerne le cas de refoulement massif. Et l'Angola, à ce jour, n'a jamais respecté cela. Alors que, ici, de signaler ici que l'État et l'esprit de cette résolution était la gestion concertée sur les opérations de rapatriement des ressortissants par d'abord les informations préalables. Donc, lorsqu'on veut refouler, on doit informer notre État, pour que le pays qui puisse prendre les dispositions afin de recevoir ses compatriotes, ce qui n'est pas le cas. Si jamais on peut informer, c'est-à-dire ils sont déjà en train d'être refoulés, et on vous informe. À ce moment-là, la RDC est toujours dans une situation difficile de pouvoir prendre les dispositions pour accueillir ces refoulés. Alors, ça c'est un. De deux, il y a l'aspect lié à la sécurité consulaire. Plusieurs fois, nous avons parlé sur Radio Okapi que notre pays fait un grand défaut sur la manière diplomatique. Les Congolais ne sont pas bien protégés. Et moi, je suis au niveau de la province du Congo central. Nous avons l'ambassade d'Angola, Kinshasa, nous avons le consulat à Matadi et nous avons le sous-consulat à Mwanda. Pourquoi à Mwanda? Parce qu'il y a une forte concentration de population angolaise. Mais allez-y comprendre que à Kabinda, où il y a une forte population congolaise, il n'y a pas de consulat. À Soyo, à Oui, et partout là-bas, il n'y a pas de représentation consulaire. C'est-à-dire, nous ne sommes pas respectés d'abord sur le plan diplomatique. Vous voyez. Mais serait-ce que par là, les Angolais ne nous respectent pas. Donc, on devait commencer par mettre, de créer des bureaux de consulaires pour que nous puissions être respectés. À ce moment-là, les Angolais respecteront quand même la procédure.
Willy Loma?
Oui.
Willy Loma, à ce jour, selon vos statistiques, combien de nationalités étrangères ont quelques citoyens réfugiés au niveau de Mwanda, là-bas au Congo central?
Non, non, à ce jour, à Mwanda, nous n'avons pas des expatriés comme réfugiés. Hein? Il n'y en a pas si peu qu'il y en a. En tout cas, c'est dans c'est vraiment dans l'isolement.
Alors,
il n'y a pas un cas de concentration.
Alors, tout à l'heure, vous étiez en train de vous expliquer les conditions difficiles dans lesquelles les Congolais sont souvent traités. Est-ce que on peut considérer que c'est peut-être un peu à cause de ça que on a répertorié, selon les reportages que nous avons diffusés tout à l'heure, aussi des conditions difficiles pour les réfugiés d'autres pays en RDC?
Mais justement, c'est comme ça que j'ai mis ça dans la globalité. J'ai des cas de réfugiés, tout comme les cas de refoulement. J'ai mis ça ensemble pour reporter les cas de violation des droits de l'homme. Voyez. Parce que nous travaillons sur les cas de violation des droits de l'homme en rapport avec des refoulements. Alors ça, on met ça ensemble. Mais quant à d'autres nationalités, il n'y en a pas sur place. Nous avons seulement des Congolais qui sont refoulés dans une situation aussi très délicate. Que comme j'étais en train de numérer là-bas. Parce que dans les conventions signées entre les deux pays, ou le toit d'ailleurs, la RDC, l'Angola et le Congo, Brazzaville, vous comprenez qu'il y a la protection des biens et l'intégrité physique des personnes. Mais non, cela est respecté, parce que les compatriotes sont souvent victimes de tortures, de viols, et ils subissent des traitements des agents inhumains. D'ailleurs, avant même de les refouler, on les a quelques uns sont arrêtés, sont mis en détention, au cachot.
Merci.
Donc, ils sont épuisés et puis on les refoule.
Merci Willy Loma. Nous reviendrons aussi à vous pour développer davantage. Nous rentrons du côté de Fafa Olivier Atida qui va reprendre la parole pour nous donner plus de détails. Mais avant, nous allons ensemble écouter avec lui ce commentaire qui nous vient de Bukavu.
Le Kiva Primo Chevariste de Kibukavu, province du Kibukivu. Donc, ce désir de retourner au pays émanera de seuls réfugiés au lieu qu'ils proviennent des autorités congolaises qui éprouvent encore tant de sérieux défis de sécurité physique, éducationnelle et alimentaire de sa population présente sur le territoire national. Cette question des réfugiés demeurera entière car ces autorités ne voudront pas créer plus d'autres problèmes qu'ils en résolvent et le HCR n'aura que ses yeux pour constater. Le cas des Congolais expulsés de Brazzaville et qui ont été clochardisés à Kinshasa à la barbe de ses autorités, celui des expulsés de l'Angola sans assistance, sans oublier ceux de l'Est qui s'améliorent sans soutien de l'État, sont éloquents. Je pense que le rôle d'un État vis-à-vis de ses citoyens demeure encore une nécessité à apprendre dans le chef de nos dirigeants.
Fafa Olivier Atida, 500 000 réfugiés des autres pays en RDC. La RDC elle-même a pratiquement le double de ce chiffre. On avoisine ou dépasse les 800 000. C'est plus que les autres pays étrangers sur son sol. Qu'est-ce que le HCR fait pour pouvoir justement favoriser la vie, une vie acceptable pour ces gens, notamment au niveau de favoriser, l'idéal serait qu'ils répartent chez eux, les Congolais, tout comme les étrangers. Quel est à ce jour le travail effectué par le HCR pour obtenir ce résultat?
Oui, merci. Je voudrais, au bénéfice pour les auditeurs, clarifier que actuellement, à la fin de l'année 2018, il y avait dans le monde environ 71 millions de réfugiés. Je voulais juste ajouter cela. Et que d'après la définition qu'a donnée l'un des débatteurs tout à l'heure de l'autre côté, le réfugié, c'est justement quelqu'un qui a fui son pays, mais qui avait des raisons de crainte bien avérées, de crainte basées sur sa race, sa nationalité, un certain nombre d'éléments qui font qu'il ne peut pas se réclamer de la protection de son pays de nationalité de résidence. Voilà. Maintenant, il est regrettable.
L'idéal serait que chacun vive chez lui, à l'aise dans son pays.
Oui, on
n'a
jamais.
Mais comme justement on a cette situation des gens qui ne peuvent pas vivre dans leur pays, le HCR qu'a-t-il fait par exemple pour les 500 000 étrangers en RDC et les 800 000 Congolais qui vivent comme réfugiés à l'étranger?
Oui, pour la RDC, comme je l'avais dit tantôt, il y a un programme d'assistance bien soutenu qui est mis en place dans la plupart dans les zones que je venais de citer, dans l'Ubangi pour les Centrafricains, le Baouélé, le Haut-Élé, donc le long des frontières de ce grand pays qu'est la RDC. Donc le HCR est présent et ceux qui sont dans des zones d'accueil, dans les familles d'accueil, nous organisons ce qu'on appelle un programme d'autonomisation. Nous ne voulons pas, et c'est avec les autorités, donc la Commission nationale pour les réfugiés, l'Institut congolais qui s'occupe des réfugiés, nous avons mis en place des programmes d'autonomisation qui rendent les réfugiés productifs, hein, plutôt que des réfugiés qui ne sont que demandeurs. Hein. Donc on veut les rendre productifs, notamment à travers des programmes agricoles pour ceux qui viennent dans des zones ruraux. Donc au niveau des villes, on essaie de faire de notre mieux également pour les rendre autonomes à travers certains programmes d'autonomisation, mais on pourrait en venir si la question se pose.
Fafa, Olivier Atiza, êtes-vous, en fait, le HCR est-il au courant de ce que tout le monde a vu à un certain moment, l'expulsion des Congolais avec violence dans certains pays voisins? Est-ce que le HCR est au courant? Et si oui, qu'est-ce qui a été fait pour empêcher que cela ne se reproduise et qu'est-ce qui est fait définitivement hein, pour qu'on n'assiste pas indifférent à ce genre de situation?
Oui, quelles que soient les conditions, le statut des personnes qui ont été expulsées, c'est un geste vraiment regrettable que nous avons constaté avec l'expulsion des Congolais à partir de l'Angola. Et je voudrais ici témoigner notre compassion comme agence à tous ces gens qui ont été expulsés. Mais une fois qu'ils ont traversé, qu'ils sont arrivés à l'intérieur du Congo, il y a toute une armada de programmes qui a été mis en place. Pour ce qui concerne le HCR, nous avons procédé au profilage de plus de 32 000 Congolais qui ont été expulsés. Et le profilage nous permet de récolter des données qui permettent à toutes les autres agences d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut ramener ces gens vers chez eux et organiser la réponse. Donc on l'a fait et ce travail continue. Bon, du côté, pour les réfugiés congolais qui sont en Angola, nous avons pris contact avec nos collègues de l'autre côté pour que ça ne se reproduise pas. Mais ce qui se passe, c'est que le gouvernement angolais a fait expulser des gens qui, selon eux, ne sont pas des réfugiés, mais des migrants économiques qui sont là. Comme je l'ai dit, c'est très regrettable, quel que soit le statut de la personne. Mais quand ils viennent au Congo, le HCR, ensemble avec d'autres partenaires, essaie d'organiser le programme de réponse et pour les assister. Nous avons fait des démarches auprès des autorités congolaises pour qu'on prenne langue aussi avec les autorités angolaises, pour qu'ils se parlent, pour que ça ne se reproduise plus. Nous espérons vraiment que cela...
Alors,
cela
brièvement, est-ce que les qualificatifs comme réfugiés, refoulés, déplacés, toute cette catégorie des personnes qui sont en train de bouger pour sauver leur vie, est-ce qu'ils peuvent bénéficier de l'assistance du HCR?
Oui, tout à fait. Pour les réfugiés, nous nous occupons des personnes réfugiées quand ils sont à l'extérieur. Donc, le bureau du HCR en Angola, par exemple, s'occupe des Congolais qui ont cherché asile là-bas. Tous les Congolais qui sont en Angola ne sont évidemment pas des réfugiés s'ils ne réclament pas le statut. Donc, ceux qui le sont, je crois que le bureau du HCR là-bas s'occupe d'eux. Maintenant, pour ceux qui sont ici, les déplacés à l'intérieur et puis les expulsés, comme je l'ai dit, quand ils viennent, font partie d'un groupe de gens que nous appelons, voilà, les déplacés, les retournés, tout un vocable que nous utilisons. Mm-hmm. Et l'assistance et l'appui est organisé de façon conjointe avec toutes les autres agents du système des Nations Unies et des ONG.
Merci. Omar Kavota, à votre tour de reprendre la parole maintenant, mais après avoir écouté cette réflexion qui nous vient de Kisangani.
J'appelle depuis Kisangani, grâce à Kajika. Moi, je pense qu'il faut se poser la question de savoir pourquoi les Congolais veulent toujours quitter le pays pour aller vivre ailleurs, alors que la RDC est un pays riche. La plupart de ces réfugiés ont poussé des raisons d'insécurité, entre autres les conflits armés, les problèmes de santé, les virus Ebola et le chômage. Oui, c'est vrai. C'est pourquoi même ils regardent s'ils reviennent encore au pays, d'où est-ce qu'ils seront habités, car ils sont déjà tout perdus, l'air bien, pendant les différents conflits qui ont régné au pays. Mais moi, je pense que les autorités peuvent faire appel à ces réfugiés de revenir au pays et de leur assurer la sécurité, et surtout, elles peuvent réserver déjà un endroit où ils seront installés.
Omar Kavota, plus de 800 000 Congolais qui vivent comme réfugiés à l'étranger. Avez-vous une idée à ce jour de combien des ressortissants du Nord Kivu il peut y avoir dans ce chiffre-là?
Oui, dans ce chiffre, il se compte en plus de 150 000 pour seulement la région de Grand Lac, selon des chiffres que nous recevons toujours du CNR, de la CNR et même du HCR. Mais en partageant la réflexion de l'auditeur de Kisangani, c'est que effectivement, il revient au gouvernement de prévoir des conditions favorables à la vie des Congolais chez eux. Parce que, comme on l'a dit, il est mieux que chez soi.
Alors,
il y a des raisons pour lesquelles les compatriotes ont fui, et la plupart, c'est pour des raisons d'insécurité, principalement ce qui concerne l'est du pays, le Kivu, l'Ituri et les provinces voisines. Mais si il faudrait que ces compatriotes reviennent, parce que eux-mêmes, partout où ils se trouvent, ils formulent le vœu de revenir. Mais il revient à l'autorité d'asseoir des conditions propices à leur retour pour qu'il n'y ait plus de prétexte de fuir. Mais en ce jour, lorsqu'on assiste à l'instabilité de nos provinces, au-delà des réfugiés, on fait face à des centaines de milliers de déplacés internes. Et donc, les conditions étant encore celles auxquelles on assiste aujourd'hui, même si on veut que les réfugiés rentrent, on a de la peine à les voir rentrer encore une fois et retourner au pays. Et donc, il faudrait effectivement qu'à ce niveau-là, des efforts soient consentis pour assainir le climat, pour permettre à ce que la sécurité soit restaurée, la paix. Et nous pensons que ce n'est qu'à ce prix, le prix de la paix et de la sécurité, qu'on pourra garantir à nos compatriotes le retour paisible, en leur assurant aussi qu'ils vont être installés et qu'ils vont travailler à l'essor de notre pays.
Omar Kavota, vous êtes notable du Nord Kivu, mais vous semblez nous dire que en fait, les autorités de la RDC ne sont pas prêtes à accueillir leurs ressortissants comme il se doit. On peut savoir pourquoi, et vous qui êtes notable de cet espace de vie, que qu'auriez-vous proposé d'urgence, hein, parce que, comme vous avez dit, les demandes de retour se font déjà exprimer.
Oui, ce que je peux proposer à l'autorité, c'est d'en finir avec les groupes armés, d'en finir avec les milices locales, les forces négatives dans leur ensemble, les mouvements terroristes qui sont la cause principale du déplacement ou de la fuite de nos compatriotes. Une fois la paix et la sécurité rétablie au pays, ces gens vont revenir. Vous savez, la paix et la sécurité ne se décrètent pas.
Merci Omar Kavota. Nous allons repasser la parole à Willy Loma, mais après avoir écouté cet autre auditeur de Kisangani.
Ougen Mongwadjou et Gabriel, depuis Kisangani, province de la Tchopo. La situation calamiteuse que vit la République démocratique du Congo traduit l'insouciance et le débordement du gouvernement congolais. Quand l'urgence s'impose, parfois les autorités publiques font semblant d'observer les principes directeurs et les normes qui gouvernent le droit international. La situation chaotique des réfugiés s'y trouvant en République démocratique du Congo n'est qu'une vitrine qui présente la situation de plusieurs coins du pays et nécessite promptement une action de la part de l'État. Je demande s'il existe un fonds destiné à gérer de pareilles situations. Je rappelle que la pacification du territoire national reste la meilleure façon de prévenir ce genre de situations des réfugiés.
Alors Willy Loma, vous avez l'habitude de monitorer justement les excès dont sont victimes les Congolais qui vivent à l'étranger. Est-ce que les assurances données par le représentant du HCR ici, permettez-moi la tautologie, vous rassurent?
Oui, écoute, je veux d'abord comprendre que la situation des violations des droits de l'homme aujourd'hui, c'est un cas qui réclame l'attention des autorités congolaises. Alors lorsque un État peut empêcher une situation et ne le fait pas, cet État pêche contre sa propre population. Comment comprendre que l'État congolais est signataire de plusieurs traités, de plusieurs conventions, et que l'autre partie, l'autre État, viole constamment et régulièrement cela, et il n'y a pas une réponse quant à ce. Et là, nous disons que l'autre État est faible. Donc nous signons de manière trop faible. On ne sécurise pas, nous ne sommes pas sécurisés par nos autorités. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons cette situation-là, de non-respect de violations par l'autre partie, parce que les autorités congolaises ne prennent pas au sérieux ce dont ils ont signé. Alors, pourquoi cela? Aujourd'hui, je vous rappelle qu'il y a plusieurs cas de décès qui se sont perpétrés en Angola, pour lesquels les Congolais sont victimes, parce que quel est le mode opératoire des Angolais avant les refoulements? C'est d'abord de prendre les Congolais en situation irrégulière, les mettre en détention pendant longtemps, les priver de la nourriture, quand ils sont affaiblis, et à ce moment-là, ils sont expulsés. Et les faibles sont facilement, et on les enterre là-bas. Voilà pourquoi nous avions exigé dans le temps qu'il y ait l'ouverture d'une enquête pour arriver à déceler et à monitorer des cas de violation des droits de l'homme de 2006 à ces jours. Et nous profitons également du micro de Radio Okapi pour faire cette réouverture de l'enquête-là, hein, que ce débat soit maintenant à jour, parce que nous avons maintenant un nouveau gouvernement avec un nouveau chef d'État, qu'on puisse maintenant ouvrir une enquête, parce que ce sont des cas qui se sont avérés vrais. J'avais reçu le moyen l'autre fois pour aller enquêter sur le niveau de Cabinda, Angola, pour comprendre qu'est-ce qui se passe là-bas.
Willy,
la situation est alarmante.
Willy Loma, nous sommes déjà au moment de conclure dans cette émission. L'idéal serait que chacun reste dans son pays et bénéficie, si possible, des meilleures conditions de vie dans son pays. Pensez-vous que le conseil au retour volontaire des ressortissants de la RDC dans leur pays peut être une solution envisageable? Si oui, que leur diriez-vous en quelques mots, très rapidement?
Bon, écoutez, donc chacun est libre, donc il peut rester dans son pays, tout comme il peut aller vivre ailleurs, mais tout en respectant les conditions de l'État pour lequel il y va. Mais seulement, parce que vous me demandez d'aller rapidement en conclusion, ici je demande d'abord qu'il y ait l'enquête par rapport au cas de violation des droits de l'homme de 2006 à ce jour. Je demande également que l'État congolais arrive à ouvrir des bureaux consulaires au niveau des provinces, des cabines d'assaut, ou là où il y a des cas de concentration des Congolais. Aussi, si on peut remettre à la Direction générale d'immigration la vente de passeports, ça pourrait quand même réduire le cas de... Parce que beaucoup de Congolais ne savent pas comment avoir le passeport. Il faut aller au ministère des Affaires étrangères. Ils trouvent ça trop politique.
Merci,
si on
Willy.
Peut remettre ça à la DGM, je pense que ça sera beaucoup plus pratique.
Merci.
Ça pourra permettre à ceux que les Congolais qui puissent voyager soient munis de son passeport et pourront voyager dignement et être respectés.
Merci Willy Loma. Omar Kavota, en quelques mots, peut-on donner comme piste de sortie l'invitation des Congolais à revenir carrément dans leur pays et vivre les conditions habituelles du pays?
Bien sûr, je l'ai dit que nous n'est mieux que ce soit, mais il faut dire aux autorités, notamment au futur gouvernement, à pouvoir pacifier effectivement les territoires naturellement pour assurer les compatriotes à regagner dans leur pays.
Merci Omar Kavota. Nous terminons aussi avec Fafa Olivier Atiza. Est-ce qu'on peut atteindre le moins de réfugiés dans le monde, si possible zéro réfugié?
Oui, ça c'est l'objectif ultime du ICR, c'est de nous mettre nous-mêmes comme fonctionnaires en chômage.
Merci.
Donc voilà.
Merci, cette émission est terminée. Jean-Noël Mokondo, Guy Maté et moi-même, vous avons proposé cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé. Merci de votre attention.